Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Point de mire consacrée au Laurier 2008, remis au Sénat en mai 2009. Vous écouterez dans cette émission par ordre Marie-Christine Saragosse, remettant le prix Laurier Portrait à Josiane Balasco pour son interprétation dans Françoise Dolto, Le désir de vivre, et puis Gérard Carrérou remettant le prix du Laurier Information TV à Hervé Chabalier en place de David Pujadas pour l'émission Les Infiltrés, et puis Martine Boutan qui recevait le prix Marcel Julien pour son époux André Boutan et pour le documentaire Claude Lévi-Strauss par lui-même. Ensuite, Geneviève Guichenet remettant le prix Patrick Bourrat à Manon Loiseau pour son documentaire Meurtre en série dans le Caucase. Ensuite, le prix Francophonie remis par le chancelier de l'Institut de France Gabriel de Breuil, un prix remis à Jean-Michel Dian et Philippe Lavalette pour Rêver le français. Et pour finir, Michel Boyon remettant la grande palme, le grand prix du Laurier d'or télévision à Georges Pernaud pour l'émission Thalassa.
Petit souvenir personnel, Carlos, paix à son âme, Jean Chrysostome Dolto, son vrai nom, un jour m'avait amené dans l'appartement où Catherine, sa sœur, entreposait tous les livres de Françoise Dolto. Et je dois vous dire que Françoise Dolto, il m'avait fait lire un texte extraordinaire, le texte qu'elle avait écrit sur son fils de la naissance à 3 ans. De la naissance aux 3 ans de Carlos, j'espère, et Catherine, que ce livre-là sera un jour publié, parce que c'est un livre absolument magnifique, comme est magnifique le Laurier Portrait, Françoise Dolto, Le désir de vivre. Le Laurier est décerné pour sa réalisation à Serge Le Perron et pour son interprétation à Josiane Balasco. Et attendez, juste un mot quand même, j'allais oublier Marie-Christine Saragosse qui va vous décerner le prix Trice Générale de TV5 Monde. Où étais-je? Oui, ça m'a ému.
Je voulais juste dire que déjà le film est d'une justesse extraordinaire et d'une très grande finesse. Ça commence dans son titre, Le désir de vivre, parce qu'on comprend en le voyant que c'est le ressort fondamental de tout le travail de Françoise Dolto. Et ça commence avec les bébés, les nourrissons qui peuvent perdre leur désir de vivre et qui le retrouvent parfois grâce à un foulard qui a appartenu à leur maman. Donc c'est un film d'une très grande justesse qui fait tourner des enfants, ce qui n'est jamais facile, puisque le parti pris de la narration, c'est de s'arrêter sur une période de la vie de Françoise Dolto. D'ailleurs, je me demandais en y réfléchissant avant de le voir, comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet quand on a lu ses thèses et ses bouquins, c'est sans fin. Et donc le parti pris de narration, c'est de s'arrêter sur 2 jeunes garçons et sur l'ambiance de ces années d'après-guerre où les grands patrons dans les hôpitaux n'ont pas tellement envie que les choses changent. Et cette femme va faire changer les frontières. Donc c'était formidable, on l'a vu en famille, donc ça fédère toute la famille, dès 10 ans aux ménagères de moins de 50 ans encore pour quelques temps. Donc je pense que TF1 a vraiment réalisé là à la fois un film de grande qualité et très fédérateur. Et puis alors Josiane Balasco, en pensant que j'avais cet honneur de vous remettre un prix, je pensais à d'autres acteurs qui ont ce registre. C'est rare les acteurs qui ont un registre aussi large, qui savent tellement bien nous faire rire et qui vont jusqu'à nous faire pleurer. Je pensais, et c'est pas du tout de la flagornerie, à Bourville, à Michel Serrault, et je me disais que dans les femmes, on n'en a pas tellement en fait, hein, mais on a Josiane Balasco qui en plus non seulement nous fait rire et pleurer, où nous touche, nous émeut, comme dans ce film, où elle est dans des silences, ce qui est rare. D'habitude, on la voit hurler dans des ascenseurs dont elle est prisonnière ou avoir des nuits d'ivresse dans des parkings. Là, elle se tait parfois. Et dans ce silence, elle fait passer des choses formidables. Et donc, j'étais très, très heureuse de pouvoir vous remettre ce prix, qui est aussi le prix qu'on met à une réalisatrice, puisque dans notre émission là, qu'on lance de cinéma sur TV5 Monde, on a consacré une rubrique à son film La Cliente, qui sortait en DVD, et qui permettra aux téléspectateurs qui ne sont pas en France de pouvoir l'acheter à l'autre bout du monde. Et puis, elle nous a prouvé aussi une chose, on n'était pas sûr que le talent soit transmissible génétiquement, mais il semble que oui, que finalement, chez Balasco, Berry, ben, c'est génétique, puisque Marie-Lou est très prometteuse aussi.
Parce que je l'ai battue.
C'est ça.
Non, y a pas une de vraie Françoise Dolto. Il n'y a pas de mystère. Hein.
C'est là. Merci.
Josiane,
Balasco, allez-y. Moi, je suis là grâce à, pas seulement à TF1, hein, faut pas exagérer, je suis là grâce à Serge Le Perron, d'abord. Je suis là grâce à Sylvie Piala. Sylvie Piala a mis l'essence dans le moteur, c'est la productrice. Serge a mis des images et des mots avec Frédéric Moreau. Ils ont écrit quelque chose de très beau. Et quand Serge m'a dit, est-ce que tu as envie de faire Dolto et j'ai envie que tu le fasses, j'ai été vraiment très, très honorée parce que c'est une femme que j'admire énormément. Et quand j'ai lu le script, je disais, mais Elle s'énerve jamais dans le truc, elle est toujours très calme, elle est quand même en butte à tout ce monde d'hommes, de mandarins, de la psychiatrie et de la psychanalyse, qui la considèrent comme une débile ou comme une folle. Et Serge m'a dit, attends, je vais me renseigner. Et il s'est renseigné, elle ne s'énervait jamais. Elle arrivait à convaincre tout le monde, et alors ça c'est là le mystère, sans passer par le conflit. Ou alors elle faisait passer les autres par le conflit, mais en tout cas jamais elle. Voilà, donc je suis très très heureuse, parce que c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose d'important à la télévision. Je suis vraiment très heureuse, grâce à tous les gens que je n'ai pas pu nommer, parce qu'il y en a d'autres encore, de recevoir ce prix. Voilà, merci.
Merci.
Madame Balasko, quelle est la différence entre un rôle humoristique et un rôle dramatique ?
Mais c'est plus difficile à faire. C'est plus difficile parce qu'on a un modèle dont on ignore beaucoup de choses. Parce que bon, on a entendu sa voix à la radio, elle a fait de la radio, mais le personnage, en réalité, il existe à travers ses conférences. Mais après, il y a toute l'attitude pour l'interpréter. Et à la fois, il n'y a pas grande latitude non plus. Disons qu'il fallait être Dolto sans la jouer.
Êtes-vous heureuse de recevoir ce prix ?
Ah ben, je suis très contente. J'ai eu ça par email. On m'a dit je vais recevoir un prix. Je me suis lancé un prix très sérieux. Et je trouve ça très, très agréable. Et pour moi, et puis pour ceux qui ont participé au projet.
Bien, maintenant, on va passer au laurier Information TV, puis la fiction de l'information. Une émission qui me fait personnellement très plaisir. Nous nous sommes battus pour qu'elle ait un prix. C'est Les Infiltrés, le magazine d'investigation présenté par David Pujadas et produit par Hervé Chabalier à CAPA. Parce qu'il faut quand même dire à ceux qui ont contesté que des journalistes se présentent sous masque, il faut dire qu'il n'y a pas que le journalisme assis sur une chaise. Et que si on veut dévoiler des choses, et c'est quand même ça la fonction de journaliste d'investigation, ce serait un pléonasme d'ailleurs, c'est que quelquefois, il ne faut pas se présenter avec sa carte de presse si on veut vraiment avoir la vérité. Et c'est souvent, souvent le cas. Donc Les Infiltrés, et qui vont être présentés par un grand journaliste, Gérard Carrérou, membre du jury, Gérard, et Hervé Chabalier, qui reçoit la récompense pour David Pujadas, qui à cette heure-là est en train de préparer son journal.
Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à écrire mon court papier. Autrefois, au Parti communiste d'Union soviétique, quand un membre du bureau politique osait manifester son désaccord, s'il n'était pas immédiatement fusillé, c'est lui qui était ensuite désigné pour défendre la position du parti qu'il avait désapprouvé. Alors on appelle ça « manger son chapeau » ou « avaler les couleuvres ». Toutes choses égales, par ailleurs, c'est un peu la tâche que mes amis du jury des lauriers m'ont confiée. Au départ, et on se dit tout ici, face à ceux d'entre nous qui, effectivement, et André vient d'exprimer cette position, qui voulaient d'entrée de jeu récompenser les infiltrés, j'avais personnellement émis quelques réserves. Pour moi, et je le rappelle aussi au passage, pour notre charte professionnelle des journalistes, un journaliste doit se présenter toujours comme tel, et ne pas recourir à de fausses identités ou à des méthodes de dissimulation. Et en tant que directeur de rédaction, j'ai dans le passé sanctionné des journalistes pour cela. Mais à la réflexion, il est évident qu'il y a des cas, des situations, des endroits, des milieux fermés où une caméra, on le sait, ne peut pas entrer ouvertement et librement. Alors si l'on veut entrer avec une caméra pour faire savoir... Il faut évidemment ruser, il faut cacher. Alors, même si, je le précise, cela doit rester exceptionnel. Après plusieurs émissions, le travail que j'ai vu, fait par l'équipe des Infiltrés, m'a convaincu et j'ai rejoint cette fois, sans réserve, les amis du jury pour récompenser par un laurier de l'information télé cette série de magazines. Je dirais que je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'ai encore de grands souvenirs de reportages radio avec Hervé Chabalier, c'était dans les années Pompidou, c'est pas d'hier, et plus tard à la télé avec David Pujadas, notamment au Droit de savoir. Bravo donc à vous deux et à Philippe Lallemand, qui mérite bien le laurier de l'Information TV.
Merci Hervé.
Merci de nous avoir rejoints après réflexion, ça me fait vraiment plaisir, mais ça ne m'étonne pas. Nous avons été sur le terrain ensemble, effectivement. Merci, merci au jury qui nous a décerné ce prix. Je suis venu avec avec Richard, avec Laurent Richard, parce qu'il est à la fois celui qui nous avait amené l'idée de l'émission et celui qui est le rédacteur en chef de ce projet qui a pu se concrétiser grâce à France 2, à Patricia Boutin-Arouel, que décidément on va citer toute la soirée, mais elle le mérite. Et bien sûr, il y a eu polémique, on en reparlera. Moi, je voulais dire aussi que j'étais extrêmement satisfait de me trouver au Sénat. Parce que j'ai appris à connaître les sénateurs au moment de la commission Copé et dans le débat qui a eu lieu après la commission Copé pour la loi. Et j'ai trouvé que les sénateurs avaient la pêche. Et j'ai trouvé que les sénateurs étaient modernes. Et j'ai trouvé que les sénateurs étaient finalement très loin de l'image que l'on a d'eux. Et donc je suis vraiment ravi, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, qu'ils abritent une manifestation de ce genre-là. Voilà. Alors, Les Infiltrés, c'est une série d'émissions. Encore une fois, ça n'est pas un concept hebdomadaire ni mensuel. C'est effectivement lorsque l'on voit qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans des institutions, dans des établissements, dans des réseaux de fonctionnement qui sont préjudiciables à la démocratie, préjudiciables à la liberté, et que l'on ne peut pas faire notre travail de journaliste de manière normale dans ces endroits-là, parce que soit on est baladé par la communication, c'est d'ailleurs l'ennemi principal des journalistes aujourd'hui, la force de la communication, que de toute façon, on risque la plupart du temps, et c'est le cas, d'être viré, de ne pas nous laisser pénétrer, alors on utilise cela. Mais il faut vraiment que ce soit dans l'intérêt public. Et c'est pour ça que c'est bien que ce soit une chaîne du service public qui diffuse ce genre d'émission. Vous savez, au-delà des records pour ce genre-là, d'audience qu'il y a eu sur France Télévisions, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les débats qu'il y a eu sur Internet après, avec le forum du site de France 2 qui a explosé vraiment, et des gens qui venaient chaque fois et qui n'avaient pas pu parler jusqu'à présent, mais parce que la situation qu'on leur montrait, la réalité qui était la vérité, parce que là, on ne peut pas tricher, hein, on y est dedans, on filme et on regarde. Eh bien, ça a suscité vraiment des débats sur les maisons de retraite, sur bien d'autres choses, même sur la magazine People, dont je sais que certains pensent que ce n'était pas utile de mettre notre caméra là-dedans. D'ailleurs, c'est souvent des journalistes. D'ailleurs, je remarque que les gens qui contestent l'émission sont des journalistes et pas du tout le public, qui trouvent ça plutôt bien de savoir enfin ce qui se passe là où ils ne peuvent pas aller. Donc, il y aura une deuxième série de reportages comme ça sur France 2.
Merci. Le prix Marcel Julien est décerné à quelqu'un, si le mot de télévision intelligente s'applique, c'est bien à lui. Évidemment, je n'oublie pas tous les autres, mais je veux dire que quelqu'un qui nous a quittés très récemment, qui est Pierre-André Boutan, pour Claude Lévi-Strauss par lui-même, qui est un merveilleux film aussi, et tout ce qu'a fait Boutan, c'est formidable. Et c'est Madame André Jégu qui lira un message d'Yves Jégu qui devait être là, mais il est alité, il est hospitalisé, donc je demande à Madame André Jégu de venir décerner le livre, et c'est Madame Martine Boutan et sa fille qui vont le recevoir. Merci.
Je vais donc lire le petit texte qu'a écrit mon mari pour ce prix, pour le remettre à Martine. Monsieur le président du Club audiovisuel de Paris, mesdames et messieurs les membres du jury, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir demandé de remettre à Madame Martine Boutan le prix du Sénat pour l'ensemble de l'œuvre télévisuelle de son mari, Pierre-André Boutan. Son œuvre est le fruit de l'idée qu'il s'était faite le plus naturellement du monde de ce que devait être la vocation de la télévision dans la société. Il y avait d'un côté la caverne d'Ali Baba des connaissances que les êtres humains se sont acquises jusqu'à nous au cours des millénaires pour comprendre leurs conditions et l'améliorer vers plus de joie. Et de l'autre, cette nouvelle technique de diffusion des images et des sons d'une puissance inconnue jusqu'à nos jours, venue s'installer sur nos places publiques, sur l'agora des peuples, qui tire 24 heures sur 24 des rafales d'images sur des milliards de cerveaux à la fois, à charge pour eux de les métaboliser. Entre les deux, les fabricants d'opinion décident d'ouvrir ou non les portes de la caverne, selon l'idée qu'ils se font de l'intelligence des autres, leurs téléspectateurs. Pierre-André Boutan savait que, même rendu presque inaudible, au milieu du brouhaha permanent des vies enfoui mais présent, le désir d'intelligence comme la princesse endormie attend son éveilleur. C'est ce qu'il fut toute sa vie. Aussi, je me réjouis de penser, chère Martine, chère Gwenaëlle, chère Émilie et chère Adrienne, en me tournant vers le représentant ce soir du Sénat que Pierre-André aura justement fait ce que disait il y a quelque 150 ans l'un des plus illustres de ses collègues sénateurs dans un discours prononcé sur le thème de l'instruction publique. C'est, disait-il, mettre en communication le génie de la France avec le cœur du peuple.
Merci.
Je remercie ce jury. C'est très émouvant d'être ici, mais je suis très heureuse que la mémoire de Pierre-André puisse comme ça se prolonger un peu. Je ne suis pas très grande oratrice et puis les circonstances ne m'arrangent pas dans ce manque de talent. Donc je voudrais lire juste un extrait d'un texte qu'a écrit Marc Lambron et qui était un hommage à Pierre-André. Je ne vais pas le lire dans sa totalité, rassurez-vous, ça ne sera pas trop long. Deux choses n'ont cessé de me frapper chez Pierre-André Boutan, mon aîné de 20 ans. D'abord, le talent, rusé combattant, de faire ce qu'il avait envie de faire et pas autre chose, c'est-à-dire une télévision de préférence, pour employer un mot cher à Julien Gracq, auteur auquel j'aurais bizarrement envie de le relier. Il y avait une signature de Pierre-André, vocale et visuelle, passionné sous un flegme de chat, filmer des entretiens avec Serge Danet, se faire le biographe de Picasso, fixer les Strauss dans un autoportrait, autant de plaisir de roi. Je pense que le mot « chaîne de télévision » excitait son envie d'évasion, comme s'il avait voulu en limer les anneaux. Stratégie chinoise, intercalée, dirigée, une manière constante et inflexible de dessiner sa liberté. Pierre-André faisait de la télévision en calligraphe orientale. Ses films m'ont toujours fait penser à une phrase de Malraux. Une bibliothèque, c'est l'héritage de la noblesse du monde. Pierre-André Boutan est de ceux qui ont fait entrer la vidéothèque dans cette phrase. J'admirais ses films sans le connaître. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai connu. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Le Laurier Grand Reporter, le prix Patrick Bourra du grand reportage est décerné de façon ô combien justifiée, à Manon Loiseau pour Meurtres en série au pays de Poutine et pour Les Braises du Caucase. Marion Loiseau, et le prix sera remis par Geneviève Guichenet, qui est membre de notre jury.
Manon Loiseau, grand reporter, est née à Londres en 1969. Vous êtes franco-britannique. Vous avez vécu, vous vivez peut-être encore en Russie. En tout cas, un jour, vous y êtes partie, vous y avez été initiée par votre grand-mère. Et un jour, vous êtes parti pour 3 semaines et vous êtes resté 7 ans. Et vous dites de la Russie que c'est un pays d'excès de tout, y compris de la violence. En tout cas, elle ne vous fait pas peur, ou ça ne vous arrête pas. Et vous allez à la recherche de ce qui se passe, qui est tue, qu'on veut plus ou moins savoir. Et vous avez appris pendant tout ce temps-là à comprendre et à connaître ce pays dont vous dites bien les parts d'ombre et de lumière. Vous avez aussi une haute conception du journalisme. Vous le considérez comme un engagement. Vous témoignez tout en étant attentive même, je dirais, à ne pas être militante. Vous considérez le journalisme comme une activité qui donne une responsabilité morale. Et vous dites aussi que vous êtes très attentive à la langue, au choix des mots, qu'il faut faire attention au langage. Vous dites aussi que d'être journaliste, c'est servir à alerter. Alors, en vous décernant ce laurier, le jury a tenu à alerter sur le talent, la compétence et le courage d'une journaliste qui honore son métier et l'exerce d'une façon très, très humaine.
Merci Geneviève. Manon Loiseau, à vous.
Merci beaucoup au jury et merci pour toutes ces belles choses. Je suis très émue et je suis aussi émue de recevoir le prix Patrick Bourra parce que j'avais rencontré Patrick en arrivant encore étudiante voulant faire du journalisme à Moscou. Et voilà, il m'avait encouragée dans cette voie. Je suis très émue parce que aussi, donc c'est pour deux reportages, un documentaire pour Arte, Meurtre en série au pays de Poutine, et puis un reportage qui est plus un reportage de guerre, les Braises du Caucase, fait pour France 2, envoyé spécial. Mais finalement, ces deux reportages racontent un peu la même histoire, qui est celle d'un État, la Russie, qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Et je crois que j'ai essayé de raconter, à travers Meurtre en série au pays de Poutine, l'histoire de ceux qui, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, essayent de nous raconter, pas forcément de dénoncer, mais d'alerter l'Occident, le reste du monde, sur ce qui est en train de se passer en Russie. Ces gens meurent. Je suis partie, en fait, j'ai réfléchi à l'idée de ce film après la mort d'Anna Politkovskaya, qui était une amie, qui m'a fait aimer ce pays quand je suis arrivée là-bas, qui m'a fait aimer ce pays aussi en Tchétchénie, malgré les drames qui s'y passaient, qui m'a aidée sur nombreux de mes reportages. Et puis après la mort d'Anna, il y a eu l'empoisonnement au polonium, dont vous vous souvenez certainement à Londres, de Alexandre Litvinenko. Et puis je suis tombée un jour sur un petit carnet noir où il y avait des noms de gens qui étaient devenus des amis au fil des années. J'ai passé donc 8 ans là-bas et petit à petit, je barrais ces noms. Et donc avec Annie-Claude Alcaïm à Arte, que je tiens particulièrement à remercier parce qu'elle m'a encouragée et supportée pendant tout le tournage de ce film. Et avec Laurent Delhomme de Kappa et Hervé Chabalier, on a commencé à réfléchir à comment raconter cette Russie que j'aime profondément, mais cette Russie qui élimine ceux qui veulent parler librement. Dans les archives, j'ai trouvé, et Kappa d'ailleurs, j'avais fait 10 ans, presque 10 ans de tournage là-bas pour eux, on avait les dernières interviews de beaucoup des gens qui sont morts, donc ça a permis de réaliser ce film et c'est de raconter en creux cela. Il faut voir que depuis l'assassinat d'Anna, il y a eu beaucoup d'autres assassinats. Depuis le mois de janvier, il y a eu 3 autres assassinats de journalistes, plusieurs cas de tabassage presque à mort, dont une journaliste du journal d'Anna, Anastasia Baburova, et l'avocat d'Anna, Sergei Markelov, qui ont été assassinés à 16h en pleine rue au cœur de Moscou. Il y a 3 semaines, il y a un autre journaliste qui a été assassiné en banlieue de Moscou. Donc le président Medvedev vient lui-même de dire qu'il y a un problème d'assassinat politique en Russie. Voilà, ça a été des tournages difficiles, ce qui s'est passé finalement dans le Caucase cet été, et aussi la conséquence de cette violence-là. C'est-à-dire qu'arriver à Tbilissi, un pays indépendant depuis la chute de l'URSS, avec ses montagnes merveilleuses du Caucase, et voir les tanks monter sur Tbilissi, comme ça nous est arrivé, avec Laurent Stoup, qui est là, qui a filmé, qui a été mon compagnon de route, qui a été formidable, et à qui je veux associer à ce prix. De voir ça, c'était vraiment des relents de guerre froide, mais surtout, ça révèle la nature du régime, je pense. Et je pense vraiment que c'est une manière d'essayer de parler de la Russie. Souvent, on a l'impression que personne n'écoute vraiment. Je crois qu'Anna ressentait beaucoup ça. En tout cas, je voudrais remercier donc l'agence Kappa, Hervé Chabalier, Laurent Delhomme, l'agence Kappa qui depuis des années me suit dans mon obsession de raconter cette douleur russe, mais aussi parfois c'est un pays très attachant, donc il n'y a pas que de la douleur. Je voudrais remercier Arte, Annie-Claude Alcaïm, qui m'a donc soutenue tout au long de ces mois et de ce tournage qui a été assez tendu, on a pu être menacé à plusieurs reprises, qui m'a aidé à aller jusqu'au bout de ce film. Je voudrais remercier énormément Françoise Joly et Guylaine Chenu, qui ne m'en ont pas voulu les avoir dérangés un 7 août en pleine vacances pour dire que je voulais aller en Ossétie du Sud, et qui, depuis des années, me suivent et font que je peux réaliser ces films sur la Russie et ailleurs. Et je voulais dire un grand merci à France 2, qui depuis 10 ans, me donne la possibilité de faire ces reportages à 20h30. Je voulais juste, en fait, enfin, je suis un peu émue, je suis désolée, je voulais juste, en fait, dédier ce prix à Anna Politkovskaya. Voilà, je pense, pour qu'on l'entende. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Manon Loiseau. Vous pouvez l'applaudir. On va passer à un autre chapitre, un autre domaine, le laurier de la francophonie. C'est bien aussi parce qu'on a l'habitude de beaucoup pleurer en disant que la francophonie, le français, c'est fini. Et il y a eu une très belle série, Rêver le français, réalisé par Jean-Michel Djian et Philippe Lavalette, et ben, qui fallait donner le prix, et vraiment une très belle chose. Et c'est M. Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, qui va décerner le prix de la francophonie.
Une œuvre audiovisuelle sur la francophonie, c'est une profonde satisfaction que de lui décerner un laurier, pas seulement parce que cela résume une grande partie de ma vie professionnelle, mais pour ce que cela représente sur le plan général. Un documentaire sur la langue, et qui plus est, une série documentaire de 3 numéros d'une heure chacun, en coproduction entre la France, le Québec et la Belgique, et une série d'émissions de TV5. C'est une démarche, je ne dirais pas courageuse, c'est une démarche réussie. On ne voit pas beaucoup de films sur la langue, cependant, toutes les émissions de télévision utilisent la langue, évidemment. Alors, vous avez conçu votre série documentaire comme un parcours très bien construit, bien animé, bien illustré, en faisant appel à toutes sortes d'intervenants, d'acteurs de toutes les catégories. Et vous avez réussi une œuvre qui se laisse voir de manière intéressante par le public le plus large. 3 volets, et je dois dire que vous avez le bonheur des titres. Le premier volet s'appelle « La fabrique des mots ». C'est l'atelier, la manière dont la langue française se forme avec les emprunts, avec les difficultés de construction, les emprunts à toutes les langues, y compris aujourd'hui à l'anglais, mais initialement au latin, au gaulois, à l'allemand, à l'arabe, à toutes les langues. Et ça se termine par la terminologie, qui est une action tout à fait indispensable pour que la langue française conserve sa vocation universelle et qu'elle puisse désigner toutes les réalités, quelles qu'elles soient. C'est, disons, le volet technique et utilitaire. Le second volet, c'est, vous l'avez appelé, le spectacle de la langue. Très joli titre aussi. Et là, vous mettez en scène tous les acteurs, les écrivains, les poètes, les chansonniers, les chanteurs, tous ceux qui font de la langue une création en elle-même. C'est le volet de l'invention poétique. Et puis alors, le troisième volet, vous l'avez appelé le pouvoir du verbe. C'est une réflexion sur l'éloquence, la vertu de l'éloquence, son histoire, sa signification politique et aussi, il faut bien le dire, son déclin que nous déplorons tous aujourd'hui, mais qu'il faut bien constater. Et c'est, si l'on veut, le volet sociologique et historique. Voilà, cette série extrêmement animée et vivante est en même temps un merveilleux outil pédagogique et l'on peut souhaiter qu'il soit à la disposition de tous les enseignants du français. Ils sont très nombreux à travers le monde, dans plus de 100 pays et regroupant, on en connaît le nombre, 150 000 professeurs de français, professeurs étrangers du français, langue étrangère, et qui le font souvent dans toutes sortes d'institutions, quelquefois bénévolement. Il faut les saluer en même temps. Votre œuvre, je crois, s'adresse aussi à eux. Et pour terminer, je dirais qu'une langue qui suscite tant de déclarations d'amour des quatre coins du monde n'est menacée que si on ne se donne pas la peine de continuer à la créer. Victor Hugo disait « Les mots sont des êtres vivants ». Michel Serres déclare que la langue française sera ce que nous la ferons, et vous ajoutez, et vous avez bien raison, elle sera aussi ce que nous la rêverons.
Jean-Michel Djian.
Je vais être bref parce que je vois Fernand qui regarde sa montre, donc je vais faire au plus vite. Merci monsieur le chancelier, c'est vraiment un bel hommage que vous faites à la langue et évidemment à tous ceux qui ont contribué à faire ce film. Je regrette l'absence de mon complice, Philippe Lavalette, qui était quand même le co-réalisateur de ce film. Et puis, avant peut-être de parler un peu, mais en 2 mots, du film, remercier parce que j'ai peur que ma productrice m'engueule après d'avoir oublié des noms. Mais c'est vrai que c'était, vous l'avez dit, courageux. Je ne sais pas si c'était courageux, mais en tout cas, c'était culotté. Dans le sens où, pour essayer et réussir ce film, de le faire en coproduction internationale avec le Québec, la Belgique, à partir de la production de Grenade Productions et Dominique Lepivert qui est ici présente et Monique Simard au Québec, ce fut vraiment en tant que tel une aventure. Et puis, s'il n'y avait pas eu TV5, et bon, on va féliciter ici Marie-Christine Saragosse et puis Suzanne Laverdière, qui à l'époque travaillait avec toi, ce film n'aurait pas existé. Il y a eu des tentatives de fait pour essayer d'exprimer visuellement la langue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été très difficile. Et même beaucoup de gens beaucoup plus compétents que moi m'ont mis en garde autour de ce projet, tout simplement parce que c'est très difficile de filmer la langue française. Mais je dois avouer que le point de départ et ce qui m'a motivé, ce qui a réussi peut-être à nous déterminer avec Philippe Lavalette, c'était l'écriture d'un livre que j'ai fait en 2005. C'était Léopold Sédar Senghor, et ça doit vous plaire de savoir que le démarrage dans ma tête de ce film, c'était une biographie de Senghor, cet académicien qui a été un homme politique, vous le savez tous, mais surtout qui était totalement admiratif de la langue française, mais passionné à un point dont on n'imagine pas l'ampleur et aussi ce que ça représentait chez lui. Et en faisant cette bio, à un moment, je me suis dit, il faut absolument révéler comment cette langue peut être célébrée, non pas en France, mais par tous ceux qui, ailleurs, célèbrent cette langue, ceux qui la font vivre, ceux qui la métissent au Sénégal, ceux qui la métissent au Canada, au Québec, ceux qui la métissent au Vietnam, en Afrique, évidemment, là où se créent des mots. Et c'est vraiment passionnant de se balader avec une caméra, de filmer et de mettre en scène des accents, des onomatopées, des silences, de mettre en scène tout ce que les autres francophones hors de France arrive à faire. Et ça a été pour nous passionnant, et on aurait pu en faire 5 heures, 6 heures, évidemment. Et puis, je voudrais remercier, au-delà de la petite équipe qui a travaillé, notamment Morgane, qui est ici mon monteur préféré, mais aussi tous ceux qui, dans le film, sont la langue. De Depardieu à Arcan, en passant par Fatou Diome, par Louis Michel, par tous ceux qui, dans l'art, dans le cinéma, à la chanson, à l'Académie, Michel Serres et Max Gallo, qui dans son film sont absolument excellents, on réussit peut-être par cette petite lucarne télévisuelle à dire des choses sur la langue qu'on n'arrivait pas forcément à exprimer par l'écrit. Et c'est peut-être aussi une image à l'écran que d'avoir réussi, avec Philippe, à aller jusqu'au bout, grâce à des archives, à l'INA, et évidemment un tas de partenaires, des petites chaînes de télé, j'allais dire, c'est pas péjoratif, comme TV Rennes ou d'autres, ont réussi à nous aider et à nous porter pendant 3 ans pour arriver à faire ce film. Et je remercie tout le monde ici, tous ceux qui nous ont aidés, et puis vous aussi, monsieur le chancelier, merci.
Merci Jean-Michel. Et maintenant, last but not least, monsieur Georges Pernoud.
On ne change pas complètement de registre, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est assez Baudelaire, vous vous en souvenez? Mais ce n'est pas parce qu'il était savoyard que Georges Pernoud s'est intéressé à la mer. C'est précisément parce qu'il est un esprit libre, et un esprit profondément libre. Il avait commencé en Afrique avec Haroun Taziev, une caméra sur l'épaule. Il était tout petit à l'époque. Il avait visité le Congo, l'Éthiopie, avec le vulcanologue. Et puis, le hasard l'a mis sur une course à la voile qui allait de Portsmouth au Cap. C'était en 1973, 13 000 kilomètres, que Georges Pernoud a parcouru également avec sa caméra et qui ont donné naissance à un reportage. Et puis, ce reportage lui a donné la passion de la course en mer, et puis la passion de la mer de manière plus générale. Et c'est comme ça qu'est née cette grande rencontre entre Georges Pernoud et la mer. Alors, Georges Pernoud est d'une famille de journalistes. Et ça l'a marqué parce que sur Thalassa, il s'exprime dans des termes que je vais essayer de dire de mémoire, mais qui sont très révélateurs de son état d'esprit. J'ai vu qu'un jour, il avait dit « Ce qui m'intéresse, c'est la démarche journalistique. Parce que je suis un garçon curieux. » Puis une autre fois, il a dit, « À Thalassa, il n'y a pas de marins. Il y a des journalistes qui sont des journalistes curieux et qui comptent des histoires. » Eh bien, avec ces mots, je crois qu'on voit tout à fait quelle est la philosophie, l'esprit qui sous-tend depuis le début l'émission Thalassa, depuis le début, c'est-à-dire depuis 1975. Parce que c'est 2 ans après la fameuse course du Cap que Georges Pernoud est allé proposer aux dirigeants de la 3e chaîne de télévision l'émission qui est devenue Thalassa. Alors, qu'est-ce qu'on y remarque à cause précisément de cet état d'esprit que je viens d'indiquer ? D'abord, un ton qui est un ton très, très original, à la fois un ton naturel, vous direz que c'est la moindre des choses quand il s'agit de la mer, un ton décontracté, mais en même temps un ton très juste. Et puis, toutes les émissions, elles sont bâties, à l'aune de la personnalité de Georges Pernoud, à l'aune de sa curiosité et à l'aune de son humilité. N'oublions pas que l'humilité, c'est la caractéristique première des grands explorateurs, contrairement à ce que l'on croit. C'est la caractéristique première de tous ceux qui doutent devant leur propre découverte. Au fond, vous n'avez pas de problème d'audience. Vous n'en avez jamais eu, vous n'en avez pas aujourd'hui. Vous traversez les modes cathodiques. Vous pouvez vous asseoir sur une philosophie que vous avez bâtie progressivement, parce que vous avez beau dire que vous n'êtes pas marin, n'empêche qu'au fil du temps, vous avez acquis les vertus du marin, et notamment la sérénité, la sagesse du marin. Alors quand on regarde Thalassa et quand on le regarde de très nombreuses émissions, on sent un très fort sentiment d'invitation. Bon, c'est bien sûr l'invitation à la connaissance, l'invitation à la découverte. C'est l'invitation aussi au loisir, au voyage. C'est l'invitation au rêve. Et Dieu sait si c'est important. Et puis, je dirais qu'il y en a une qui me paraît encore plus forte aujourd'hui, c'est l'invitation à la responsabilité, au sens des responsabilités. Dans Thalassa, on traite de la mer sous tous ses angles. À telle enseigne d'ailleurs qu'on ne parle pas que de la mer, mais on parle aussi des bords de mer, du littoral, des côtes, et puis on rentre même parfois très loin au cœur des terres pour parler de la mer. On le fait sous tous les angles, l'économique, le culturel, le social, l'international, bien sûr aujourd'hui l'environnemental. Et derrière cette invitation à la responsabilité à laquelle Thalassa nous convie dans chacune de ses émissions, moi je vois la marque d'une très grande personnalité que je salue. Thalassa c'est Georges Pernoud et Georges Pernoud c'est Thalassa, même si il y a eu des prolongements. Il y a eu le prolongement avec Planète Thalassa. Il y a la chaîne de télévision pour les enfants qui s'appelle Ma Planète. Et puis, allez regarder aujourd'hui le développement du site internet de Thalassa, l'appel aux internautes, les sentinelles, les fameuses sentinelles de la mer. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, ce qu'on vous décerne aujourd'hui, Georges Pernoud, c'est bien sûr des lauriers d'or. Normalement, les lauriers d'or, c'est des lauriers d'Apollon. Les vôtres, ça sera aussi un peu les lauriers de Neptune.
Alors d'abord, je voudrais remercier le jury. Et puis, je voudrais remercier une chaîne de télévision qui s'appelle France 3. Non pas parce qu'elle diffuse Thalassa depuis le début, mais parce qu'elle m'a laissé monter une équipe. Alors, vous m'autoriserez à partager ce laurier d'or avec toute une équipe, parce qu'une équipe, c'est mieux qu'un budget. La télévision, ça ne se fait pas tout seul. Alors, c'est vrai, il faut lancer le mouvement, il faut essayer de le poursuivre et de garder une philosophie. Mais c'est obligatoirement une équipe, et j'en sais quelque chose, puisqu'au départ, j'étais caméraman. Puis ensuite, j'ai été rédacteur en chef de Thalassa. Puis maintenant, je suis une espèce de troublion qui anime tout le monde. Mais il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Jean Loiseau, avec 23 cartes de presse. Donc, ce que je vois surtout dans le geste qu'a fait France 3 à l'époque, et tous les présidents que j'ai eus ont toujours soutenu Thalassa, parce qu'ils en étaient contents. Le président ça, s'occupe d'abord de ce qui ne marche pas. Mais France 3 a permis à une équipe de se constituer. Je crois que c'est très important. Ça existe de moins en moins, malheureusement, dans nos métiers. Mais le phénomène de l'équipe dans nos métiers qui se font obligatoirement en groupe... C'est important que les chaînes y pensent, et là je m'adresse à tous ceux qui ont des responsabilités dans les chaînes, c'est important de laisser des équipes se créer. Voilà, j'aurais peut-être une pensée pour mon père, parce que le titre n'est pas de moi, c'était un hénéniste de talent, et même certains dans ma famille qui étaient tous journalistes de presse écrite ont dit c'est bien, le petit qui a fait très mauvaises études va prendre un métier manuel puisqu'il va être caméraman.
Merci, Georges Pernoud. Thalassa, laurier d'or.
C'était donc les lauriers d'or 2008, remis au Sénat en mai 2009, attribués à Manon Loiseau, Gérard Carrérou, Georges Pernoud et bien d'autres. Vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com.